7h18, les enjeux internationaux. Bonjour Thierry Garcin.
Bonjour Marc Moinchet.
Et vous nous parlez d'Afrique aujourd'hui et du sommet au Tchad de la communauté des États sahélo-sahariens.
Voilà, autre nom.
Sahélo-sahariens, voilà, je l'ai dit correctement.
C'est dit. Vous auriez pu dire le CENSAD qui se réunit aujourd'hui et demain. C'est une organisation créée en 1998 à l'initiative du guide libyen. 6 pays à l'origine, désormais 28, gigantisme de ces forums. Le CENSAD est accusé d'être une mini-union africaine ou une chose libyenne, financé par Tripoli, affirment ses détracteurs. On va revenir au Sahel. Le Sahel, donc, effectivement, ce sont des limesses, ou c'est un limesse pour les pays arabes du Nord, une zone d'interface pour les pays d'Afrique noire, des confins apparemment éloignés des conflits récurrents de la Corne de l'Afrique, conflits qui vont sans doute à nouveau s'enflammer l'année prochaine avec l'indépendance probable du Soudan du Sud. Et Marion Lourd, justement, tout à l'heure, a évoqué la venue à N'Djamena du président soudanais. Alors, quoi qu'il en soit, depuis une dizaine d'années, largement, c'est une nouvelle zone grise. Au micro d'Éric Laurent, Antoine Glaser, directeur de la Lettre du Continent.
Toute cette zone sahélo-sahélienne qui va de la Mauritanie au Soudan, il y a une guerre, vraiment une guerre secrète qui se mène contre des mouvements islamiques qui sont pour la plupart d'entre eux des mouvements qui étaient d'abord algériens avec le fameux GSPC, le groupe salafiste de prédication et de combat pour le combat, et qui est un groupe, en fait, c'est la guerre civile algérienne qui s'est déplacée dans le Sahel. Et c'est assez, ils sont très difficiles à combattre. Il n'y a pas plus, finalement, entre les services spécialisés évalués entre 200 à 500 membres de ces groupes radicaux qui, maintenant, se sont affiliés, mais d'une façon virtuelle, à Al-Qaïda, qui se sont intitulés Al-Qaïda, ACMI, Al-Qaïda du Maghreb islamique. Et ils sont principalement quand même dans le sud algérien, ça veut dire le sud algérien, c'est le Mali, le Niger. Mais on a vu les Français qui avaient été assassinés en Mauritanie, on a vu un certain nombre de touristes espagnols et italiens qui sont encore détenus. Les négociations sont toujours extrêmement difficiles. C'est une région, c'est très compliqué parce qu'il y a en même temps des caravaniers, c'est des anciennes routes du trafic de cigarettes et maintenant du trafic de drogue. Il y a des mouvements irrédentistes, Touareg, qui fait que tout ça se mélange. On a vu ce qui était absolument incroyable aussi au moment quand un diplomate canadien s'était fait enlever, avait été enlevé par des mouvements Touareg et vendu ensuite à des membres de Al-Qaïda du Maghreb islamique. Tout ça pour vous dire que malgré tous les drones américains, malgré toute cette présence américaine, malgré, on a l'impression toujours que cette hyperpuissance qui est très mobilisée en Afrique sur la lutte contre le terrorisme dans cette région sahélo-sahélienne et en même temps dans cette corne de l'Afrique en Somalie, on voit que cette guerre, pour l'instant, n'est pas gagnée.
Mais quelle est, je dirais, la logique de l'implication américaine? Parce qu'effectivement, c'est une zone, on voit très bien qu'effectivement, c'est une espèce de ventre mou, c'est en termes sécuritaires. Mais pour les Américains, il est difficile de considérer que c'est une zone prioritaire. Alors, est-ce qu'éventuellement, les intérêts économiques, comme par exemple le Niger, l'uranium, etc., sont d'autres données?
Je pense que pour les Américains, c'est une anticipation. C'est la grande crainte, c'est que dans le monde actuellement, c'est vrai que ce continent africain, le continent le moins connu, c'est le continent où des groupes terroristes peuvent le plus facilement s'installer. On voit qu'il y a cette guerre qui est menée en Afghanistan et en Irak, et on voit qu'il y a la crainte que des groupes islamistes, des groupes musulmans radicaux formés en Afghanistan, finalement, se replient dans ces deux régions du continent, ces régions de Sahara et aussi à la corne de l'Afrique avec ce pays qui n'existe plus, qui s'appelle la Somalie. Et donc, je pense que c'est une anticipation. Bien évidemment, au-delà, il faut savoir que le continent africain, c'est la dernière frontière pour les matières stratégiques. Il y aura demain, sans doute, une lutte entre la Chine et les États-Unis pour non seulement les matières premières stratégiques comme le niobium, les terres rares, le coltan qu'on utilise dans nos portables, mais aussi pour les Américains, le continent africain, ce sont les oléoducs, c'est le pétrole du golfe de Guinée, mais on commence à découvrir d'importants gisements de pétrole aussi au Mali, au Niger. Et il y a bien sûr l'Algérie, la Libye, où il y a toutes les compagnies américaines sont dans le sud de l'Algérie et en Libye. Et ils craignent qu'un jour ou l'autre, à partir de cette zone, à partir du Mali, du Niger par exemple, que des groupes commencent à pénétrer dans le No Man's Land, même s'ils sont dans des bases-vies très sécurisées, qui puissent quand même commencer à pénétrer et à ce moment-là à vraiment attaquer le cœur de l'économie américaine, qui est le pétrole africain.
Bien sûr. Mais est-ce que vous avez le sentiment aussi que ce sont des régimes, les régimes de ces pays sont fragilisés par évidemment les problèmes internes, enfin les problèmes récurrents qui se posent à eux, notamment évidemment bien sûr, le problème Touareg et les revendications Touareg.
On en parle peu, mais c'est vrai que pour tous ces pays, c'est absolument dramatique. Hein. Rappelez-vous le Paris-Dakar qui avait été annulé en Mauritanie, maintenant qui ne déroule plus en Afrique, mais en Amérique latine. C'est vrai que pour des pays comme la Mauritanie ou le Mali ou le Niger, qui avaient connu, où il y avait vraiment un tourisme du désert, où les gens adoraient aller passer des nuits dans le désert, c'est vrai que c'est extraordinaire. C'est dramatique parce que même encore récemment, le seul pays de la région qui n'était pas touché, qui était le Burkina Faso, les Américains ont décidé de rapatrier 114 membres de ce qu'on appelle les Peace Corps, qui est une ONG de volontaires du progrès. Le Burkina Faso est le pays des ONG. Et à partir de cet rapatriement, du coup, l'ambassade de France, tout le monde a commencé à prendre peur. Et le gouvernement burkinabé est complètement désespéré parce que c'est évident que s'il n'y a plus de coopérants, il y a beaucoup de coopérants de coopération décentralisée dans les villages du nord du Burkina Faso, un des pays les plus pauvres du monde. C'est vrai que c'est dramatique, on ne se rend pas compte. On parle très peu, on parle toujours des enlèvements, bien évidemment, mais on parle très peu de l'impact socio-économique que ça peut avoir sur l'ensemble de ces pays.
Mais alors, y a-t-il, justement en termes de coordination sécuritaire, y a-t-il une coopération, par exemple, entre les États-Unis et la France ?
Très peu, en fait. Ça se passe surtout au niveau des services secrets, mais on voit bien que les Américains, de leur côté, ils ont vraiment, il y a au moins 600, 700 instructeurs qui sont dans cette région. Ils mènent des manœuvres, ils encadrent des troupes, des armées africaines, mais des petits nombres, des opérations commando et autres. Ils ont leurs avions, mais on a l'impression vraiment que tout ça se fait de manière très dispersée. Jusqu'à présent, à partir de drones, à partir de renseignements, d'écoute, c'est vrai que c'est les Américains qui donnent aux autres pays parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais en même temps, il y a des tas de susceptibilités aussi dans la région. Vous avez par exemple les Algériens qui ne sont pas contents du soutien des Libyens à tel mouvement Touareg. Vous avez les Algériens n'aiment pas trop de voir des pays occidentaux se rapprocher de leurs frontières dans le sud. Vous avez les services secrets algériens souvent qui connaissent bien, les salafistes qui connaissent bien ces mouvements radicaux islamistes qu'ils ont eux-mêmes combattus pendant des années. Et bien évidemment, tout ça ne se coordonne pas d'une façon extraordinaire.
D'une façon extraordinaire. Donc Antoine Glaser, directeur de la Lettre du Continent, micro d'Éric Laurent. Sport, identité nationale demain, revue, donc notre partenariat avec Questions internationales, le bimestriel de la documentation française. L'invité sera Fabien Archambault.